Je ne voudrais pas en rajouter une couche. Mais pourquoi, avec le temps, les hommes deviennent-ils chauves et mous? Passé un certain âge, ils sont nombreux à avoir cette préoccupation. Ils perdent leurs cheveux. Au mieux, ils s'en fichent. Au pire, ils font tout pour retarder cette calvitie naissante. Ça vient d'où, cette chute irrémédiable?
C'est effectivement une grande question. Je ne pense pas qu'il y ait une réponse tout à fait simple. Si on parle de cheveux, ce qu'on appelle la calvitie, c'est assez clair qu'une prédisposition familiale existe. Les hommes dont le père avait ce type de problème, ils ont beaucoup plus de risques de les développer. Ça semble être presque 5 fois plus fréquent. C'est les hommes dont le père il avait déjà une calvitie.
Microscience. Un podcast de la RTS.
Bienvenue dans Microscience. Un épisode dédié à votre santé, les hommes. Yorgos Papadakis est endocrinologue au Centre hospitalier universitaire vaudois, à Lausanne. Il en a vu des cheveux tomber et des hommes se demander ce qu'il se passe avec leur crinière, qui finit par manquer de panache. Serait-ce un signe qu'il leur manque quelque chose? Des hormones, peut-être?
Contrairement à ce que la plupart des gens pensent, les hormones masculines, ce n'est pas leur manque qui contribue à la calvitie. C'est plutôt un peu le contraire. C'est plutôt que localement, au niveau du scalp, ils sont très très actifs. Et c'est ça qui fait que les poils peuvent s'affaiblir progressivement.
Ah, l'hormone masculine, la fameuse testostérone. Ce n'est donc pas son manque qui produit cet effeuillage capillaire?
Il y a des taux de testostérone qui sont normaux, mais les poils, les cuirs chevelus réagissent de manière exagérée. Ce n'est pas qu'il y a trop de testostérone, c'est que la testostérone qui circule partout dans le corps et qui est normale, là-bas, elle arrive à se suractiver.
Donc, les hommes chauves ne sont pas non plus bourrés de testostérone.
Alors, c'est la testostérone et c'est aussi quelques dérivés de la testostérone qui sont produits localement par des enzymes et probablement l'activité de ces enzymes qui vont un peu suractiver la testostérone et la convertir à la forme qui est encore la plus puissante, qui s'appelle dihydrotestostérone. C'est ces enzymes qui sont très différents d'une personne à l'autre.
Mais cette testostérone, c'est quand même le symbole du mal.
Alors, la testostérone, ça sert à beaucoup de choses, effectivement. On peut toujours dire que la testostérone, elle est même active avant qu'on ait. Et elle sera responsable en grande partie pour le développement des organes génitaux externes de l'homme, entre autres les pénis. Après, pendant l'enfance, on passe tous une période où la testostérone est physiologiquement basse et elle va se réveiller au début de la puberté. Et là où il y a un peu le rôle principal, qui est effectivement cette virilisation du corps et la poussée de la croissance aussi. Et en même temps, la testostérone est très, très importante pour le développement des muscles et aussi le développement des os. Maintenant, à l'âge adulte, la testostérone, elle est responsable, elle contribue à la fertilité, elle contribue à préparer la spermatogénèse, et elle est aussi importante pour la vie sexuelle. Ça fait un peu partie des hormones, assez importante pour ça. Mais il y a aussi un intérêt de santé générale.
Et si elle est importante pour plein de fonctions dans notre corps, ce n'est pas de la faute de la testostérone si la toison des hommes se clairsème. Il y a donc visiblement une question génétique aussi.
Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une prédisposition, c'est-à-dire que quand on compare les hommes qui avaient un antécédent familial de calvitie avec les hommes qui n'avaient pas, les premiers, ils ont environ 5 fois plus de risques. Mais probablement, il y a plusieurs gènes et on n'est pas aujourd'hui apte à prédire non plus ces risques. On sait qu'il y a une prédisposition, mais ça ne sera pas chez tout le monde. Ce n'est pas une fatalité en tout cas. C'est une prédisposition, une augmentation du risque clair, mais la science à ce jour, elle n'a pas encore tout compris.
Pourtant, des pistes d'explication de cette suractivation locale de la testostérone, il doit y en avoir.
Il y a sûrement aussi pas mal de facteurs liés au style de vie, les expositions probablement toxiques, professionnelles, tout ça, ça pourrait jouer, ça peut aggraver un peu notre tendance ou ça peut un peu l'améliorer.
Et comme pour tout, le stress doit aussi contribuer à la chute de cheveux.
Le stress, tout à fait, le stress, comme pour tout dans la santé, n'est-ce pas? Mais je pensais aussi beaucoup même à l'alcool, à la cigarette, je pense que c'est des choses qui n'aident pas.
Et le sèche-cheveux?
Alors ça aussi, certains produits, il y a des gens aussi qui disent que d'exposer trop nos cheveux au shampoing tous les temps, ça n'aide pas. Je pense qu'il n'y a pas une solidité scientifique, mais c'est clair que c'est des choses qu'on doit tous faire attention.
Ce qui m'étonne pourtant, à y regarder de plus près, c'est que le reste du corps semble compenser cette perte de masse capillaire, avec des poils dans les oreilles et dans des endroits un peu bizarres.
Ça, c'est tout à fait juste. J'ai aussi la même observation. Et j'aurais dit que probablement, les follicules pileux, alors cette petite poil au niveau de la tête, ils sont beaucoup plus sensibles aux hormones masculines. Pourquoi? C'est probablement la façon avec laquelle elles sont construites. Ce qui arrive, si on veut vraiment décortiquer un peu ça, c'est vraiment que cette exposition aux hormones masculines, il fait que petit à petit, les poils, les tiges des poils deviennent de plus en plus minces, de plus en plus courtes aussi. Et c'est ça qui va donner un peu cette perte progressive avec l'âge.
Cela semble être une fatalité difficile à repousser, ou à faire repousser, devrais-je dire. C'est ingrat, le temps. Les cheveux tombent et certaines parties du corps ne se lèvent plus très bien.
Oui, la dysfonction érectile, c'est quelque chose d'effectivement fréquent. Quand j'essayais de regarder quelques statistiques, on aurait dit que probablement à partir de l'âge de 40 à 50, 20 à 40% des hommes sont touchés. Après, c'est un terme assez vaste. Ça peut être la difficulté d'avoir une érection, ça peut être les manques d'avis, ça peut être la difficulté avec l'éjaculation.
Mais là, pour le coup, la testostérone, elle doit y être pour quelque chose, non?
Là où les hormones entrent dedans, clairement, et la testostérone en particulier, c'est dans la régulation de ce qu'on appelle l'envie sexuelle, la libido. La baisse de la libido, la baisse de l'envie sexuelle, ça peut être hormonal. La difficulté avec les érections, souvent il y a d'autres facteurs, ça peut être typiquement les vaisseaux qui nourrissent les testicules, qui n'arrivent pas à faire le travail très bien, ou les nerfs qui doivent aussi les stimuler. Il y a pas mal de facteurs qui peuvent jouer.
Donc, d'un côté, il y a l'envie. Et de l'autre, la capacité physiologique à mettre cette envie à exécution. Et évidemment, le temps érode les plus hauts sommets.
Alors, les deux baissent avec l'âge, effectivement, mais d'une façon très très variable d'une personne à l'autre. Et il y a aussi des hommes qui peuvent même, après un certain âge, avoir les deux qui sont parfaitement normales. La santé générale joue un grand rôle aussi dans cette sphère-là. Mais l'âge, effectivement, en tout cas, si on parle en tout cas du taux de testostérone, le taux de testostérone d'un homme, il va légèrement baisser avec l'âge, d'une manière très, très progressive.
Et la fertilité?
Là, j'aurais dit plutôt non. C'est-à-dire que quand on regarde un peu la quantité, la qualité du sperme chez les hommes après un certain âge, on voit des réductions, mais très, très, très légères. Probablement, les hommes deviennent un peu moins fertiles à partir de l'âge de 50 ans. Mais sauf si vraiment ils ont des problèmes de santé conséquents, la plupart des fois, la fertilité reste intacte.
Ce n'est pas que je veux insister lourdement sur les petits soucis de la moitié de l'humanité, mais mis à part les cheveux et le reste, il y a un autre phénomène qui m'intrigue. C'est ce petit pneu qui vient s'ajouter autour de la taille de mes amis, ceux qui ont dépassé la cinquantaine, voire la quarantaine, voire même la trentaine.
C'est toujours effectivement ce côté génétique et même ce côté ethnique. On sait qu'il y a certaines nationalités qui ont plus de risques que d'autres. Par exemple, les gens d'ancêtres un peu plus latinos, ils ont tendance à avoir plus facilement une accumulation de graisse dans les ventres, ce qu'on appelle les mauvaises graisses. Et maintenant, c'est clair que les hormones peuvent jouer un rôle, mais elles sont coupables pour la minorité des cas dans ce type de problème. C'est peut-être pas notre sujet aujourd'hui, mais typiquement les troubles de la thyroïde sévère qui peuvent favoriser une prise du poids. Les manques de testostérone sévère aussi, mais ils sont assez rares.
Donc, en général, c'est une question de report d'attention du lit vers le frigo.
Ce qui est clair, c'est que le style de vie, il est primordial là-dedans. Et ce que moi, j'ai dit souvent à mes patientes et mes patients avec des troubles hormonaux, c'est que si on a un bon style de vie, on peut compenser en grande partie pour une tendance familiale ou une tendance hormonale, sous réserve qu'on n'a pas de très gros problèmes que les médecins n'ont pas vus et qu'ils n'ont pas soignés comme il faut.
Perte de cheveux, prise de poids, facteurs génétiques et hormonaux. Arrivés à mi-chemin de leur vie, les hommes deviendraient-ils des femmes comme les autres ?
Ce qui est différent, c'est que la baisse hormonale chez l'homme, elle arrive de manière très, très graduelle. Et ça n'a rien à voir avec la baisse brusque des hormones sexuelles chez la femme avec la ménopause. Et par exemple, chez un homme, la baisse de la testostérone, elle est environ de l'ordre de 0,4% par année. Tandis que chez la femme, on parle d'une baisse brusque au bout de 2-3 ans pendant la ménopause. Du coup, c'est un autre scénario. Mais ayant dit ça, les hommes vieillissent aussi, les hormones vieillissent aussi, mais probablement de manière beaucoup plus graduelle.
Et si on parlait d'andropause ?
Alors, c'est un terme que moi, j'utilise pas beaucoup. Je sais que c'est un peu à la mode aussi. C'est clair qu'il y a peut-être un 20% des hommes qui commencent à avoir des symptômes qui peuvent suggérer une baisse hormonale. Ça peut être la baisse de la libido, la diminution de l'énergie, la baisse du moral aussi, une certaine aussi tendance à se sentir un peu plus mou, comme vous avez dit. Mais là, pause, ça veut dire arrêt. Alors, chez l'homme, il n'y a pas un arrêt brusque. Et si on regarde vraiment de nouveau les statistiques, quand on mesure cette fameuse testostérone dans le sang, on voit qu'entre 40 et 80 ans, il y a vraiment moins que 10% des hommes qui ont une testostérone basse. Du coup, pas d'andropause, mais par contre, effectivement, l'âge joue un rôle et quand il y a des symptômes, il faut explorer.
Même s'il n'y a pas d'andropause, les hormones masculines baissent avec le temps. À la louche, 10% de testostérone en moins tous les 20 ans. Une baisse qui s'accompagne d'une perte de la masse musculaire, de rides, de perte de fonction cognitive, et j'en passe. Et il n'y aurait donc pas de lien ? Pourtant, chez les femmes, tout est mis sur le dos des hormones.
Ça dépend de quel est notre point de départ, hein, comme vous pouvez imaginer. Si on est parti par des taux franchement dans la norme, cette baisse liée à l'âge, on va rester dans les limites de la norme. Et probablement, si on a un bon style de vie, on va moins sentir ces symptômes que vous avez notés. Maintenant, ce qui est clair, c'est que probablement, en partie de vieillissement des muscles peut être en lien avec la testostérone. On sait qu'il y a des récepteurs dans les muscles par rapport à la testostérone. Elle fait une action directe. Pour tout ce qui est la cognition, la mémoire ou même l'aspect esthétique, les rides, je pense que c'est des points où c'est pas clairement démontré un lien.
Cela dit, la perte de muscles et la prise de poids, c'est un cercle vicieux, chez les hommes aussi.
C'est tout à fait juste. Il y a un cercle vicieux. La cause la plus fréquente des manques de testostérone chez l'homme adulte après la quarantaine, c'est pas l'âge, c'est l'obésité. Du coup, c'est clair qu'une prise de poids importante va entraîner une inflammation globale dans les corps et aussi des dysfonctions des hormones qui viennent du tissu adipeux, qui sont très importantes pour le fonctionnement du cerveau. Du coup, le cerveau, et en particulier l'hypothalamus, il va moins bien stimuler le testicule. Du coup, c'est clair que chez l'homme atteint d'une obésité, une baisse de testostérone peut être vue. Et après, cette baisse de testostérone peut aussi aggraver notre tendance à accumuler du gras dans le ventre. Du coup, il y a clairement un cercle vicieux. Il faut qu'on choisisse par quoi commencer. Est-ce qu'on essaye de traiter l'obésité ou est-ce qu'on essaye de traiter le manque de testostérone? Là, j'aurais dit que maintenant, on a beaucoup de moyens pour l'aider d'érection. Et je pense que s'il y a beaucoup de marge au niveau du style de vie et s'il y a un vrai problème alimentaire ou problème d'obésité, de travailler sur ça avant de substituer un testostérone, c'est probablement la première étape. Mais ça dépend, c'est cas par cas.
Et en parlant de cas, il y en a aussi de plus en plus de diabète et de maladies cardiovasculaires. Est-ce une fatalité liée au vieillissement ?
Le vieillissement, c'est quelque chose qu'on va tous vivre, hein? On ne peut pas l'éviter. Après, on peut vieillir mieux ou moins bien. Là, c'est clair aussi que les manques hormonaux, s'ils sont importants, ils peuvent aggraver tout ça. On sait par exemple que c'est les hommes qui ont une absence de puberté pour des raisons génétiques. S'ils ne sont pas substitués par testostérone comme il faut, c'est un facteur de risque pour développer un diabète plus tard. Si on parle de la population générale, là c'est clair que le style de vie, c'est notre meilleur allié. Une alimentation équilibrée, sans restriction, avec beaucoup d'apports en légumes, et effectivement avec une prise modérée de tout ce qui est la graisse animale. Je pense que c'est probablement ce qui est démontré le plus efficace. Mais aussi l'activité physique. Quand on parle d'activité physique, qu'on pense à quelque chose d'intensité quand même modérée. Moi, j'utilise toujours l'exemple, j'ai dit à mes patients, qu'il faut qu'on puisse transpirer en faisant cette activité physique 2 à 3 fois par semaine au moins. Et c'est un peu probablement les choses qui peuvent nous protéger le mieux du diabète, des maladies cardiovasculaires et de tous les problèmes métaboliques, si on veut être un peu plus large.
Et ce sont exactement les mêmes conseils que pour les femmes. Alors, si on propose des hormones aux femmes après un certain âge, pourquoi ne pas en proposer aux hommes ?
Alors oui, on pourrait l'imaginer, mais avec beaucoup de préconditions. Je pense que le numéro un, c'est d'en avoir vraiment besoin. C'est-à-dire qu'il faut faire un bilan. On ne peut pas juste donner la testostérone à tout le monde. On sait que si la testostérone elle est prise par des personnes qui ont déjà un taux normal, on finit à des taux qui sont supra-thérapeutiques et c'est là où on a surtout les risques.
Des risques, bah, pour les femmes, il y en a aussi.
Les risques d'un surdosage en testostérone ou d'une prise de testostérone, c'est deux choses séparées. Alors, quand on parle d'un surdosage, c'est qu'on voit typiquement, par exemple, dans la prise d'anabolisants, hein, dans le domaine du sport, là, on peut avoir des risques assez importants, surtout par rapport au risque de thrombose, de caillots dans le sang, ou aussi le fait que la testostérone stimule beaucoup nos globules rouges. Du coup, on a énormément de globules rouges qui circulent, et ça fait que le sang peut devenir plus visqueux. Du coup, on peut avoir des risques, mais comme je dis toujours à mes patients hommes, parce qu'on parle plutôt des hommes, du coup, dans cet exemple, la prise de testostérone dans les bons mains, avec une bonne surveillance, on peut rester à un cadre tout à fait sécuritaire. Les autres risques qui sont décrits, il y a eu beaucoup de discussions dans les dernières décennies par rapport à la prostate et les cancers de la prostate. On sait que la testostérone fait pousser la prostate et on sait que les petits cancers de la prostate sont fréquents. C'est pour ça qu'on surveille la prostate quand il est sous testostérone. Mais maintenant, ce qui semble aussi assez rassurant, c'est que la testostérone à des doses physiologiques ne semble pas créer des cancers de la prostate. C'est-à-dire que si la testostérone est basse, s'il y a un vrai déficit de testostérone, là, elle pourrait avoir une place pour la santé générale et aussi pour tout ce qui est la prévention de la prise du poids et tous les autres symptômes. Mais ça, c'est une minorité de personnes.
Hein. Une minorité, certes. Ils sont nombreux, pourtant, autour de moi, avec leurs petits pneus autour de la taille. Alors pourquoi ne pas contrôler systématiquement les hormones chez les hommes pour proposer un supplément en cas de besoin ? On est d'accord. Ça ne fera pas repousser les cheveux, mais ça pourrait permettre d'anticiper les autres problèmes.
Déjà, il faut essayer de cibler les symptômes, parce que vous pouvez imaginer, on ne peut pas faire un dosage de testostérone à tous les hommes entre 40 et 80 ans. Peut-être que le système de santé ne va pas beaucoup aimer ça. C'est les femmes, il y a aussi l'arrêt des règles, il y a effectivement des symptômes qui arrivent un peu à nous aider à cibler les moments qu'il faut le faire. Maintenant, j'aurais dit que les symptômes les plus spécifiques d'un manque de testostérone sont vraiment cette baisse de la vie sexuelle. Et ça peut être la diminution de la force musculaire, un manque d'énergie, la fatigue, et aussi la diminution des érections. Je pense que c'est une bonne indication. Si on a ces symptômes-là, oui, il faut s'adresser à notre médecin qui doit mesurer la testostérone dans le sang. C'est un dosage de routine. Là, si on a une suspicion et un taux abaissé, il faut un avis spécialisé, au moins au début.
Les hormones jouent un rôle essentiel dans notre santé. Et ces mêmes hormones nous jouent des tours quand l'automne pointe son nez. Et c'est toujours plus tôt que prévu. Pour autant, la vie intime des hommes chauves ne semble pas particulièrement décevante.
Tout à fait. Et je pense que moi, dans mon entourage, j'ai beaucoup d'amis qui sont avec des hommes qui ont un problème de perte de cheveux et qu'ils ne se plaignent pas. Du coup, je pense que ce n'est pas du tout... Au contraire même, il y a effectivement une tendance qu'on a l'impression que les hommes qui perdent leurs cheveux, ils ont beaucoup plus poilés ailleurs. En tout cas, il n'y a pas de manque de testostérone, il n'y a pas une raison qu'ils ont plus de risques à performer moins bien.
Peut-être que les copines en parlent entre elles. Et quand bien même, la vie affective ne se résume pas à des performances.
Pourquoi mon orteil me fait si mal quand je le cogne ? Pourquoi je dors ? Pourquoi je rêve ? Qui a inventé la seconde ? Pourquoi le glaçon flotte dans mon verre ? Où est la lumière quand j'éteins ma lampe ? Mon ficus essaie-t-il de me parler ?
C'est avec toute la tendresse du monde que l'équipe de Microsciences prend congé de vous aujourd'hui. Il y a Camille Dupont-Lahitte, coproductrice, enzyme indispensable au fonctionnement de ce podcast. Jérôme Nussbaum, à la charpente musicale. David Gueland, à la réalisation qui assure l'équilibre de cet épisode. Andrea Glanville, attachée de production, qui agit dans un deuxième temps. Moi, c'est Uma Camis, journaliste scientifique. À nous tous, nous avons beaucoup de cheveux et peu importe leur répartition. Si cet épisode vous plaît, notez-le sur votre plateforme préférée, Play RTS par exemple, et partagez-le sur le réseau social de votre choix. Si vous avez une question, une remarque, n'hésitez pas à nous envoyer votre message sur microscience@rts.ch, microscience en un seul mot et au pluriel. Et par ailleurs, si vous vous demandez pourquoi j'ai de grosses fesses et comment les hormones féminines, cette fois, influencent nos vies, je vous invite à écouter ou réécouter l'épisode consacré à ce sujet. À bientôt !